Je vais parler aujourd'hui du judaïsme au temps du Christ. Nous finissons donc le paysage, de brosser le paysage dans lequel le christianisme a débuté, d'une part le paganisme, d'autre part le judaïsme. Le judaïsme au temps du Christ est le résultat d'une longue évolution. Flavius Joseph, ce juif du premier siècle de notre ère, né en 37 et mort en 100, est un témoin précieux des débuts du christianisme. Il rappela aux Romains, dans ses antiquités juives, l'ancienneté de son peuple. Il rappelle que si l'origine de Rome remonte, selon la légende, en -753, l'histoire de Moïse date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ et celle d'Abraham au XXe siècle avant Jésus-Christ. La grande cassure pour le peuple d'Israël reste la déportation à Babylone, qui eut lieu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Après 70 ans passés à Babylone, les Israélites reçurent de Cyrus, l'empereur de Perse, la permission du retour. Certains Juifs ont même vu dans la figure de Cyrus l'incarnation du Messie. Une première colonie de 50 000 hommes partit sous la conduite de Zorobabel, triste caravane qui s'avança péniblement avant d'arriver dans une Jérusalem désolée. Une seconde de 100 000 membres les rejoignit du temps d'Artaxerxès avec Esdras et Néhémie. De Jérusalem, il ne restait plus pierre sur pierre, les portes et les parties combustibles étaient brûlées. Courageusement, les Juifs prirent la décision de le rebâtir. Ils durent le faire le glaive en main, car la haine des anciens ennemis s'était réveillée. Les Samaritains qui étaient restés sur place, certains étaient certes considérés comme des frères et même comme des cousins, mais ils étaient infréquentables. Comme le note saint Jean dans son évangile, les Juifs n'ont pas de rapport avec les Samaritains. La principale zone de discussion était que les Juifs disaient qu'on ne pouvait adorer qu'à Jérusalem, mais les Samaritains étaient bien obligés d'avoir trouvé un endroit pour adorer, toute la discussion de Jésus avec la Samaritaine. Chose très importante, après la captivité, il n'y a plus eu de prophètes. Il y aura des livres sapiens sûrs, recueils de maximes et de réflexions de style philosophique, des livres historiques, comme celui des Maccabées, des histoires édifiantes, comme celle d'Esther et de Tobie, mais les prophètes se sont tus. Les livres d'Esdras et de Néhémie sont un témoignage émouvant du courage avec lequel les Juifs ont rebâti leur ville. Parmi les livres sapiens sûrs, le livre de la sagesse mérite une mention particulière, ne serait-ce que parce qu'il a été écrit directement en grec, et non en araméen. Nous sommes au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il a été écrit à l'intention des Juifs vivant en Égypte afin de les mettre en garde contre l'engouement pour la philosophie grecque qui débouchait souvent sur la tentation d'abandonner le culte au Dieu unique. La Bible de Maretsu le dit bien dans son introduction. Dans son histoire de l'Église qui me sert de guide, l'abbé Yvelin précise « Ce dernier livre de l'Ancien Testament, il s'agit du livre de la sagesse, contient la première révélation de l'immortalité de l'âme et de la destinée éternelle. » Avant, il n'y avait que le Sherl, on ne savait pas ce qui se passait. Il est une digne transition entre l'Alliance ancienne et la pleine révélation de Jésus-Christ. Sagesse éternelle et rédempteur du monde, de la Nouvelle Alliance, il n'en est pas cité dans le Nouveau Testament, mais on peut découvrir de nombreux passages qui font allusion, notamment dans l'Épître aux Hébreux, c'est comme le précise l'abbé Hulin. Après la captivité, les prophètes se taisent, ai-je déjà dit. À l'inspiration succède l'interprétation littérale, les arguties, les méandres du raisonnement, la subtilité, c'est la synagogue, le collège des docteurs, le Sanhédrin. Cette tendance ne fera qu'empirer après la destruction de Jérusalem par Titus en 70 après Jésus-Christ, destruction après laquelle il n'y eut plus ni temple ni grand prêtre, seul subsistait la synagogue. L'influence de l'hellénisme était grandissante. Ce fut l'origine de la révolte de Judas Maccabée et de ses frères. Le but était de permettre aux Juifs de respecter leurs lois indépendamment des lois officielles et de l'opinion générale. Le livre des Maccabées, rédigé au 1er siècle avant notre ère, décrit cette révolte contre Antiochus Épiphane qui voulait imposer les mœurs grecques, en particulier la nudité aux palestres et aux thermes, très gênante pour les Juifs circoncis. À noter que, pour la première fois dans l'Ancien Testament, il est fait mention d'une prière pour les morts. Pour soutenir leurs efforts, Les Maccabées firent appel aux Romains qui ont répondu à leur appel avec empressement. Les Juifs devaient s'en repentir quelques deux siècles plus tard. C'est donc un peuple occupé, mais non asservi, qui entendit la prédication du Christ, peuple qui attendait un libérateur politique, bien différent de celui qui devait nous délivrer des chaînes du péché. Au temps du Christ, les Juifs se répartissaient grosso modo en trois groupes. Le premier, c'est ceux qui décidèrent de fuir ce temps de corruption dans quelques lieux écartés afin de mener une vie de vertu. C'étaient en quelque sorte des moines avant la lettre. Sobrement vêtus, ils se levaient avant l'aube pour travailler. Ils consacraient une bonne partie de leur temps à la prière, réalisant la vie de ce que la Bible appelait Nazaréen, terme qui pourrait se traduire par « saint ». C'est une fascinante homonymie avec originaire de Nazareth. Les plus connus de ce groupe sont les Esséniens, qui siégeaient près de la mer Morte. Ils vivaient dans des cavernes. On sait l'intérêt qu'a soulevé la découverte des monuments de la grotte de Qumran, qui a permis entre autres de comparer certains textes hébreux avec des versions recopiées vers le 5e siècle. Il semblerait que ce qu'annonçait clairement le christianisme ait été modifié par les Massorètes, experts juifs qui traduisaient l'hébreu en grec. Un autre groupe, les thérapeutes, étaient fixés près d'Alexandrie. Ils affichaient des mœurs semblables. Le Romain Philon disait d'eux « C'est une nation qui dure éternellement sans que personne n'y naisse car il ne contractait pas de mariage. » Saint Jean-Baptiste était de cette famille spirituelle ainsi que les disciples Saint Jean et Saint André. Les Sadducéens les traitaient de pieux imbéciles. Les Sadducéens, le deuxième groupe, rassemblaient une bonne partie des personnalités fortunées et influentes, acceptant sans trop de scrupules cette situation pourvu qu'on les laisse vivre dans leur aisance. On comptait parmi eux les princes des prêtres et aussi les Hérodiens qui acceptaient l'autorité d'Hérode avec tous ses crimes. Il n'est que de citer le massacre des innocents et la décapitation de Saint Jean-Baptiste pour en juger l'état de décadence. Cela n'empêchait pas ces monarques de vivre dans un luxe inouï. Il n'est que de visiter le palais qu'ils ont bâti en plein désert. Il y avait même des thermes à la romaine. Les Hérodiens ont accepté l'édification à Samarie d'un temple à la gloire de l'empereur. Il est vrai qu'Hérode avait construit à Jérusalem un temple encore plus somptueux que l'ancien, pour bien peu de temps, il est vrai. En 70, Tite, le général de Vespasien, détruisit tout ce renard, il n'en resta plus pierre sur pierre, si ce n'est le mur des lamentations. Certains sadducéens mettaient en doute l'immortalité de l'âme, comme en témoigne l'Évangile lors d'une discussion sur le mariage. Dans le fond, ils s'accommodaient de l'occupation romaine, car ils craignaient surtout que les Romains se vengent de l'agitateur en détruisant la ville. Le troisième parti, si l'on peut dire, est celui de ceux qui, tout en restant dans le monde, avaient décidé de s'attacher à la lettre de la loi et d'apporter une fidélité scrupuleuse à la tradition. Projet louable en soi, si ce souci n'avait débouché sur une étroitesse légaliste, manifestation d'une angoisse indubitable. Croire que l'amour peut se contenter d'une liste de prescriptions est aussi ridicule que désastreux. Que penser du fiancé disant à sa fiancée « Je t'ai offert un bon déjeuner, une belle robe, voire une belle bague, donc je t'ai assez aimé. » Ou la jeune fille « J'ai recousu ton pantalon, repassé tes chemises, préparé un bon dîner, donc je t'ai assez aimé. » On sombre vite dans le lamentable. L'amour ne se codifie pas, comme le montre l'évangile du pharisien et du publicain. Cette conception de la religion que l'on pourrait qualifier de juridique, voire de policière, débouche sur des monstruosités parfois comiques, comme celle de l'œuf pondu par la poule. Si l'œuf était pondu le jour du sabbat, il était déclaré impur. Mais si seulement la moitié de l'œuf était sortie, on m'assurait l'authenticité de cette affaire. Je puis assurer l'authenticité de la discussion entre un prêtre qu'il serait difficile de qualifier d'antisémite car elle avait été déclarée juste parmi les nations, et d'un rabbin que le prêtre désirait inviter à un repas. Après moult discussions autour des lois qu'il convenait de respecter, le rabbin accepta juste de prendre un café, à condition d'apporter dans sa poche la tasse devant recevoir le café. On croit se délivrer de l'angoisse de la créature devant son créateur au moyen d'une liste de prescriptions. Il y avait pourtant parmi les pharisiens certaines écoles moins matérialistes, comme celle de Rabbi Hillel qui disait « Ne jugez pas avant d'avoir été vous-même dans la situation de ceux que vous jugez », ou celle de Rabbi Gamaliel, dont on lit une parole au sujet des chrétiens dans le chapitre 5 des Actes des Apôtres, qui dit « Si c'est des hommes que vient leur dessein et leur œuvre, elle se détruira d'elle-même. Mais si c'est de Dieu, vous pourrez en venir à bout. Vous risqueriez de vous trouver en lutte contre Dieu lui-même. » Il y avait enfin, parmi les païens, des prosélytes, ou craignant Dieu, qui recevaient l'enseignement sans être juifs au sens propre. Les prosélytes de la justice confessaient l'unité de Dieu et observaient la loi. Les prosélytes de la porte avaient la foi sans la pratique. Le centurion Corneille était du nombre. Les juifs étaient assez nombreux dans l'Empire romain. Les familles juives étaient des familles nombreuses. Tacite, comparant leur fécondité à celle des Romains, a fait cette réflexion. Ils sont nombreux parce qu'ils ne tuent pas leurs enfants. Les juifs insuraient aux Romains à la fois une répugnance certaine et une attirance mystérieuse devant leur fidélité inviolable envers la loi, une loi qu'ils ne comprenaient pas. On a pu les comparer aux ossements d'Ézéchiel, desséchés par une observance trop littérale de la loi. Le Christ allait venir pour leur redonner la vie. De fait, tous n'ont pas reçu son enseignement. C'est un mystère dont saint Paul a parlé avec émotion. La conversion du peuple d'Israël sera la dernière étape avant son retour. Nul ne peut sonder les projets de Dieu. Étonnante destinée que celle du peuple d'Israël, petit groupe nomade appelé par Dieu depuis la Mésopotamie, il put se fixer en Égypte, histoire de Joseph, où il connut une condition de semi-servitude avant d'être délivré par Moïse. Petit peuple au milieu d'une mosaïque de païens, il connut son heure de gloire avec David et Salomon vers 1000 avant Jésus-Christ. Gloire de peu de durée. Dès la mort de Salomon, il se partagea en deux. Une première partie qui deviendra la Samarie sera conquise par la Syrie en 722. Le royaume de Juda sera conquis en 598 par Nabucodonosor, qui, à la suite d'une révolte, mettra le feu à Jérusalem et déporta sa population à Babylone en 589. L'exil se termine avec Cyrus en 538. Les Israélites s'organisèrent comme communauté religieuse qui subsiste après la conquête d'Alexandre en 331 jusqu'au règne d'Antiochus Épiphane de 175 à 163 et à la persécution citée plus tôt. Après Titus, le peuple juif dispersé dans toute la terre subsiste au moyen de la synagogue gardienne de la Bible. Dans une grande partie, le peuple juif n'a pas accepté le Christ, mais comme dit saint Paul dans son épître aux Romains, le rejet d'Israël n'est pas total. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a distingué d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte dans le chapitre d'Élie? Qu'est-ce à dire? Israël n'a point obtenu ce qu'il cherche, tandis qu'ils ont obtenu ceux qui ont été choisis. Pour les autres, ils ont été endurcis. Ainsi qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'hébétude, des yeux pour ne point voir. Mais si les premiers... Mais est-ce pour tomber qu'ils ont trébuché? Absolument pas. Attendez, je voulais citer autre chose. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Cet aveuglement d'une partie d'Israël ne durera que jusqu'à ce que le complément des païens soit entré. Alors Israël tout entier sera sauvé. Ainsi qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et éloignera de Jacob toutes les impuretés. Si par rapport à l'évangile, ils sont ennemis de Dieu à cause de vous, par rapport à l'élection, ils sont aimés à cause de leur paix. En effet, pour saint Paul, c'est parce que les Juifs ont été rejetés que nous avons pu prendre leur place. Voilà. La prochaine fois, nous verrons les vrais débuts du christianisme.